Alors je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Jeff Blanchette s'est intéressé et s'intéresse toujours au monde du voyage, Luc. Ouais. Et il y a deux, trois nouvelles étonnantes dans ce monde du voyage. La première, allons directement à notre aéroport qui reçoit aujourd'hui un super beau congrès et qui a comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête un rapport de l'Office de tourisme qui risque de le ternir pas mal.
Exact. Ouh. C'est le congrès Roots Americas qui a lieu au centre des congrès du 12 au 14. Donc, ça se termine jeudi. C'est le plus important forum de développement aérien des Amériques. Et on se demandait si la ville allait profiter de la présence de la visite pour lancer ce fameux rapport roi qu'on attend depuis maintenant des semaines.
Attaquer Gaétan Gagné à la jugulaire.
Exactement. Y aller vraiment pour le coup fatal. Et c'est pas le cas. On va devoir attendre à la semaine prochaine pour consulter le rapport. Donc, M. Gagné va pouvoir accueillir ses invités sans crainte de se faire torpiller
On en connaît quelques conclusions quand même.
Oui. Puis, regarde, il pourra montrer ses 14 trophées. Puis, dans le fond, on se chicanera quand la visite sera partie. C'est ce que
je comprends. Il n'a pas aimé celle-là quand j'ai dit que j'ai installé une belle table avec vos 14 trophées.
Mais donc, la ville et le comité ont décidé que durant que la visite est là, on allait faire semblant que le couple s'entendait bien, mais qu'après ça, on se tirerait la vaisselle par la tête.
C'est une belle comparaison.
Bon, donc c'est la semaine prochaine qu'on devrait avoir ce rapport-là. D'autre part, Air Canada, semble-t-il, ne dit pas tout à ses clients.
Ouais, je vous parle de la pratique de l'overbooking, la survente de sièges. Donc, on vend à surcapacité pour s'assurer que si un passager qui se présente pas à la porte d'embarquement, on a un avion plein quand même. C'est une pratique qui est autorisée au Canada, qui est conduite par plusieurs compagnies aériennes, pour ne pas dire toutes les compagnies aériennes. Et CBC News s'est intéressé à la pratique chez Air Canada dans un documentaire, dans un reportage qui a été diffusé en fin de semaine. On a questionné un ancien agent du service à la clientèle. Et selon lui, la politique d'Air Canada, ça oblige les employés à ne pas prévenir les voyageurs, même si on est sûr qu'ils n'embarqueront pas dans l'avion. Donc, par exemple, il y a un formateur questionné qui disait « Si c'est écrit GTE sur votre billet pour gate, ça signifie que vous n'avez pas de siège sur l'avion. Vous ne serez pas en mesure d'embarquer. »
Donc, si j'ai GTE sur mon billet, j'embarquerai pas.
C'est ça. Donc là, c'est sûr que tu vas avoir un numéro de porte. Le gate va apparaître. Mais si tu vois, il n'y a pas de numéro de siège. Ça a l'air plutôt, disons, peu clair ce qui est écrit sur ton billet. GTE, c'est pas bon signe pour toi. Parce qu'il y a des bonnes chances que tu n'embarques pas sur l'avion.
Sur le billet ou sur la carte d'embarquement?
Sur la carte d'embarquement.
Okay.
Mais les cartes d'embarquement, il y en a de moins en moins. La version électronique va contenir ça aussi.
Absolument.
Absolument.
Okay. Absolument. Donc, quand on la montre aux employés, si la personne dit ça chez Air Canada, ce qu'on demandait aux employés, c'est de dire, regarde, si tu leur expliques qu'ils n'ont pas de siège à ce moment-là, là, c'est sûr qu'ils vont pogner une heure. Envoie-les à la porte d'embarquement, on gérera rendu là. Donc, on pèle tel problème par en avant.
Au moment où j'enregistre mon bagage, ils savent déjà que j'aurai pas de place. Mais ils me laissent enregistrer mon bagage. Mon bagage aller dans la soute, puis moi me rendre à la porte d'embarquement.
Il y a juste une différence, une nuance, je pense, Myriam. C'est qu'ils te le disent pas, puis ton bagage, il va pas dans la soute à bagage.
Ah.
Il s'en va sur une voie d'évitement.
Ah.
Et si jamais il y a des sièges qui se libèrent, ton bagage va se retrouver à bord. Mais ils ont pensé à ça aussi.
C'est ça, ton bagage va se retrouver sur le bord de la soute pour sortir en premier, mais c'est le dernier qu'on va embarquer sur l'avion si jamais on est capable de te trouver un siège à bord. Puis, ce qu'on dit, c'est que la clientèle d'affaires est super payante. Eux vont être prêts à mettre le gros prix pour du dernière minute. Et on veut être sûr d'accommoder cette clientèle-là, quitte à laisser des touristes de côté et faire embarquer un homme d'affaires, une femme d'affaires qui va mettre le gros prix pour le billet.
Oui, Jeff, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent la nouvelle façon de déterminer la tarification des avions, qu'on appelle la méthode dynamique. Le même billet d'avion, du jour au lendemain, passe de 300 piastres plus cher à 600, 800, à 1000, à 2000. Et ça, c'est un système d'algorithme qui détermine l'offre et la demande et qui essaie d'aller tirer le maximum qu'ils peuvent aller tirer de la valeur d'un avion qui est sur le point de décoller. Alors, les billets fluctuent en prix de haut en bas de façon constante.
Et pour nous, ben c'est difficile de s'y retrouver un peu comme simple touriste entre guillemets. Il y a moyen de se mettre des alertes avec Google Flights, avec différentes applications. Hopper, je vous en reparlerai peut-être à un moment donné, mais
Hopper,
ces applications
c'est un gars de Montréal, en plus.
Exact. Hopper, H-O-P-P-E-R, qui est une application qui vous permet de mettre des alertes.
Oui, c'est
et
ça.
Eux vont vous dire à quel moment réserver votre siège ou si au contraire c'est mieux d'attendre un peu parce que les prix vont baisser. Ça peut être très utile. Oui. Pour ce qui est de l'overbooking, la survente de siège, si ça vous arrive, pour les volontaires, on peut vous dédommager. Il faut négocier un peu avec la compagnie. Et pour les autres, ça peut aller jusqu'à 1350 $ selon la compagnie aérienne, selon la destination, selon la durée du retard. Mais là, on s'embarque dans des problèmes administratifs.
Puis la loi un peu confuse de Marc Garneau n'est pas encore entrée en vigueur. Puis de toute façon, il n'a pas prévu ces dédommagements dans sa loi de façon claire.
C'est ça. On est en période de consultation actuellement. On devrait avoir plus de nouvelles vers juin, juillet. Monsieur Garneau semble avoir de bonnes intentions, mais on ne sait pas dans les faits comment ça va s'appliquer.
Moi, j'ai beaucoup de difficultés à justifier le fait que tu vendes quelque chose en double. Je comprends pas, là.
Mais ça ne disparaîtra pas, Myriam. Ça ne disparaîtra pas. Parce que les marges de profitabilité dans l'aviation commerciale chez les grandes compagnies sont extrêmement minces. Alors, le fait d'avoir deux voyageurs, trois, quatre, cinq de plus que tu aurais eu normalement, donc, tu tiens compte de ceux qui annulent pour des raisons de maladie, parce qu'ils sont en retard, peu importe. La marge est tellement mince que ça ne disparaîtra pas. Je ne dis pas que c'est une bonne affaire, j'en ai déjà été victime, mais je pense que ça ne disparaîtra pas. On est mieux de l'accepter.
De se résigner?
Oui.
Pour avoir accès à votre siège, le truc, c'est vraiment de réserver 24 heures à l'avance. Là, quand on ouvre le check-in, l'embarquement, sur le site web, rendez-vous le 24 heures à l'avance. Et là, vous allez réserver votre numéro de siège. Sinon, vous pouvez le faire dès l'achat de votre billet, mais il faut payer le 10, 15, 20 $ de plus.
Moi, je refuse de payer, regarde, pour réserver un siège. Je paye pour être dans l'avion. Je ne veux pas payer en plus pour réserver un siège. Ils me tiendront toujours bien pas debout dans l'allée.
Non, mais l'affaire est pas là. L'affaire, c'est que si tu veux avoir un traitement, disons, plus confortable, c'est-à-dire si tu veux être assuré que tu vas avoir ta place, ce que dit Jeff est vrai, tu prends ton appareil intelligent puis tu réserves ton siège 24 heures d'avance.
Non, ça, 24 heures d'avance, j'ai pas de problème. Ça, on paye pas pour ça. Mais quand ils te disent que si tu veux être sûr de ton siège, faut que tu payes 25 $ ou 37 $ parce qu'ils ont des drôles de chiffres pour ça. Autrement dit, quand tu veux faire un marissal de toi-même, puis avoir la meilleure place dans l'avion, t'es mieux de payer. Puis honnêtement, si je mesurais 6 pieds 4, probablement que je paierais. Autre sujet assez étrange, une compagnie qui poursuit ses propres passagers parce qu'ils ne se rendent pas à destination.
Ouais, ben Luc en a parlé de la tarification. C'est vrai que c'est complexe à comprendre. Puis vous avez sûrement déjà remarqué ce qui peut paraître des aberrations. Par exemple, vous voulez faire Montréal-Vancouver, ça va vous coûter 950 $. On va mettre un chiffre comme ça. Si vous voulez faire Montréal-Honolulu avec transfert à Vancouver, là, ça va vous coûter 750 $.
C'est ça.
Donc, ça paraît complètement illogique. La distance parcourue est beaucoup moindre, mais tu payes moins cher. Donc, il y a des petits fins finaux qui vont réserver le vol à 750 $ et débarquer à Vancouver. Ils vont arriver sur le tarmac, prendre leur bagage à main. Il n'y a pas de bagage en soute pour que ça fonctionne.
Non, parce sinon, le bagage en soute, lui, il s'en va.
C'est ça. Bagage à main, tu débarques et là, merci beaucoup, à la prochaine. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et ça, c'est clairement indiqué dans les conditions, les fameux petits caractères qu'on ne lit pas quand on achète nos billets. On n'a pas le droit de faire ça. Et si tu le fais, tu peux même te faire annuler ton vol de retour. Parce que la compagnie d'aviation va dire, Madame Segal, Monsieur Lavoie sont pas arrivés à leur destination finale. On peut libérer le siège qui leur était réservé. Et on va pouvoir vendre cette place-là à quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, débarquer à l'étape du transfert, plutôt que de poursuivre son périple au complet.
Et il y a vraiment une compagnie qui a commencé à poursuivre ses passagers?
Exact. Cette semaine, Lufthansa, qui est une compagnie allemande, poursuit un passager et eux, ils veulent vraiment faire un exemple de ce passager-là. Cette personne-là, c'est un homme. En avril 2016, il voulait faire Seattle-Francfort et il a pris un billet Seattle-Oslo avec transfert à Francfort. Son billet lui a coûté 743 $. Sauf que s'il avait voulu faire Seattle-Francfort en ligne directe pour les mêmes dates au moment où il l'a acheté, ça aurait coûté 3133 $. Donc, pas mal plus d'argent. Et là, ce que Lufthansa veut, c'est 2 400 $ en dommages pour la différence entre les deux billets et les intérêts encourus depuis avril 2016.
Et comment ça se fait que les compagnies vendent des distances plus longues pour moins cher?
Ben, c'est la loi de l'offre et la demande. C'est pour ça qu'il y a tout un système informatique avec les algorithmes dedans. S'il y a pas beaucoup de demandes pour Oslo, et qu'en fait, il faut qu'ils se rendent vraiment à la limite pour remplir l'avion, là, et qu'ils n'ont pas d'assurance que ça va l'être, les prix vont chuter vers Oslo, même s'il y a un transfert puis la distance est plus longue, alors que si vers Francfort, il y a un trafic fou et une demande forte, les prix vont monter en conséquence. C'est ça le dynamic pricing. Savez-vous, par exemple, que au basketball, présentement, la National Basketball Association, les Raptors de Toronto et tous les autres, là, les billets fonctionnent sur ce système-là aussi. Hein? Okay. Parce que j'ai un gendre qui est fou de basketball, puis il voyage souvent pour son travail. À chaque fois qu'il va à Toronto, il ouvre son appareil, puis là, il va voir, parce que les Raptors reçoivent telle équipe, okay? Le prix de ton billet va être 98 $. Ils reçoivent l'autre équipe, c'est 225 $. Ils reçoivent l'équipe de tête, c'est 450 $. Et ainsi de suite, et en constant mouvement aussi, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et à mesure que tu approches du moment, puis il y a un moment juste avant le match, disons à peu près 2 heures avant le match, je peux pas jurer que c'est 2 heures, mais c'est quelque chose comme ça, où là, tout ce qui reste de billets, ils font ce qu'on appelle du dumping. Là, tu vas en avoir des billets, mais tu n'auras pas beaucoup de paires ensemble. Tu vas avoir un billet tout seul, un billet... Mais tu vas y payer 25-30 $. Alors, cette façon de faire-là, où, Myriam, toi qui aimes aller à New York, quand tu vas à New York, n'importe quel spectacle, n'importe quel événement sportif, à n'importe quel moment, tu peux avoir des billets, des meilleurs billets, au moins cher, mais ça va te coûter un prix de fou. Pourquoi? Parce qu'à New York, ce qu'ils ont décidé, c'est que pour éviter le marché noir, ils ont décidé de codifier, de prendre en main, de systématiser le marché noir. Alors, c'est du dynamic pricing qu'ils appellent comme ça. Alors, tu rentres à ton hôtel, tu demandes au concierge de l'hôtel, « Écoute, j'aimerais aller voir les Rangers de New York ce soir qui reçoivent, je sais pas moi, les Penguins de Pittsburgh. On est à 4 heures du match. Ouais. Des billets, monsieur, pas de problème. » Tes billets arrivent, tu te rends compte qu'ils coûtent quoi? 850 $ de billets, ben oui, mais c'est parce que c'est le dynamic pricing. T'es à la dernière minute.
Ouais.
On n'est pas à l'heure où il y a un cut-off. Puis de toute façon, le Madison Square Garden est toujours plein. Il n'y en a pas de dumping de billets à la fin. Les Raptors, il y en a un peu.
Par contre, si tu veux voir un spectacle sur Broadway, si tu prends le moins populaire, tu vas avoir des billets faciles.
Oui, oui, mais c'est vrai pour tous les spectacles de New York. Ils marchent tous sur ce système-là maintenant.
OK, mais moi, je trouve bien étrange le monde de l'aviation. Quand te rendre plus loin, ça te coûte moins cher que de te rendre plus proche.
Mais c'est un milieu tellement concurrentiel, c'est ça qu'on oublie. Hein. Des compagnies d'aviation naissent et meurent quasiment sur une base mensuelle.
D'ailleurs, dans la chanson de Charlebois, il n'y en a plus une vivante.
Ben oui, ben oui.
Merci, Jeff Blanchet.
Un plaisir.
Merci, Jeff. Hein.